RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Aujourd'hui dans les GG, Emmanuel Debier, chef d'entreprise, Flora Gebali qui est entrepreneur de la transition écologique et l'avocat Charles Consigny. C'est la troisième heure des GG qui démarre et vous allez encore prendre la parole au 32-16 sur nos petits sujets de discussion. On a une nouvelle canicule qui s'installe, c'est la cinquième. Est-ce que vous êtes au bout du rouleau? Très franchement, parce que on l'a vu hein, tous, moi je rentre de vacances, on a vu autour de nous des gens qui disent j'en peux plus. Là, et quand on voit les prévisions météo sur la semaine qui vient, on va encore avoir du 39-40 degrés cette semaine par certains endroits. La nouvelle canicule à l'horizon, est-ce que vous êtes au bout du rouleau? Vous êtes crevé, vous êtes fatigué, vous avez pris des dispositions? Vous venez en discuter tout à l'heure à midi moins 20. Une partie de la droite qui souhaite le retour du septennat. C'est Xavier Bertrand qui l'évoque. Bruno Retailleau a l'air assez pour. Gérard Larcher, le président du Sénat aussi. Revenir à un septennat, un seul, pour un président de la République, est-ce que c'est mieux qu'avoir un quinquennat ou deux quinquennats? 32-16 pour le dire au GG tout à l'heure à 11h20. D'abord, on va s'intéresser à une proposition de l'ancien ministre de la Santé, Yannick Noether. Yannick Noether, c'est le député Les Républicains de l'Isère, l'ancien ministre de la Santé. Il dépose une proposition de loi pour taxer les industriels du tabac. Ce qu'il veut, Yannick Noether, après les incendies que l'on connaît, les incendies ravageurs à répétition, c'est qu'ils prennent leur part dans les incendies qui parcourent le territoire français. Parce qu'ils disent, les mégots, il y a ceux qui les jettent, mais surtout, avant d'être un mégot, c'est une cigarette. Une cigarette, c'est nocif, et maintenant on voit que c'est doublement nocif, c'est nocif pour la santé, et quand on jette le mégot, bah ça fout le feu. Alors, il dit, je vais déposer une proposition de loi pour que les industriels du tabac, ceux qui produisent les mégots par milliard, prennent leur part avec une contribution sur le chiffre d'affaires. Bon, est-ce qu'il a raison ou pas? Est-ce que ça peut être efficace? Ça rapporterait 350 millions d'euros, et ces 350 millions d'euros, ça abonderait, vous savez, les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours. Alors, taxer les industriels du tabac pour financer les SDIS, 32-16 pour me dire ce que vous en pensez au grand gueule. Flora, est-ce que ça te paraît être une bonne mesure, une bonne idée ou pas?
Je sais pas, parce qu'après on va rentrer dans le débat, par exemple les incendies de Fontainebleau, on va vers une piste criminelle plutôt, donc c'est pas forcément un mégot. Il y a un autre sujet très dangereux, c'est le verre. Quand vous laissez une bouteille de bière ou du verre sous un cagnard, ça prend feu et c'est aussi dangereux. D'ailleurs, il faut le dire aux auditeurs, ne laissez jamais, jamais, jamais du verre en randonnée ou ailleurs, parce que ça, vous avez la garantie d'allumer un feu. La possibilité d'allumer un feu. Donc, ça me paraît pas très pertinent, mais surtout, ça me paraît pas systémique. En fait, c'est pas parce qu'on va taxer le tabac qu'on va lutter contre le réchauffement climatique efficacement. On parle d'un sujet qui concerne non seulement pour l'adaptation toutes nos industries, comment on adapte les villes, comment on adapte les services publics, c'est autant des lits à l'hôpital pour avoir pour accompagner les personnes en surchauffe que des pompiers pour aller éteindre ces feux. Enfin, il y a toute une adaptation de la société à faire et il nous propose d'aller taxer l'industrie du tabac. Je trouve ça à côté de la plaque.
Charles.
Moi, je suis pas contre, je vous avoue. Je pense que l'industrie du tabac
Ce sont des milliards d'euros, hein.
Oui, mais malgré tout, est quand même une industrie criminelle. C'est quand même une industrie criminelle. La seule raison pour laquelle on n'interdit pas purement et simplement, c'est parce qu'il y a plein de gens qui fument encore et que ce serait un peu raide pour ceux qui sont accros au tabac de leur couper le truc direct. Mais c'est quand même une machine à tuer. Faut dire les choses comme elles sont. Et donc les taxer pour leur faire porter une partie du fardeau collectif sur ces méga-feux, je vois pas le problème, effectivement.
C'est rare que tu sois pour la taxe,
oui,
quand même.
Oui, c'est rare. Donc là, je suis pour cette taxe. Je soutiens cette proposition.
Ouais, tu ailles consulter.
Du ministre Yannick Noether. Oui. De l'ancien ministre. Moi, je pense qu'il a raison.
Moi, je suis surpris.
Le tabac rapporte entre 14 et 16 milliards à l'État.
Faut bien qu'on achète les Canadair. Hein.
Ouais, moi, je suis surpris de ce monsieur Noether. C'est quelqu'un qui est le Parti des Républicains, qui est un relativement sérieux comme ça de comportement. Mais il raconte que des conneries et toutes ses idées sont catastrophiques. Alors, je vais peut-être être l'objet d'une réprimande, mais pour moi, c'est pas Yannick Neuder, c'est Yannick Neuder. Parce que vraiment, il est à côté de la plaque. C'est tellement facile d'inventer des taxes.
Ça veut pas dire pour
charger une industrie. Parce que c'est quand même démagogique. Oui, mais... d'aller encore emmerder les cigarettiers qui sont déjà surtaxés, qu'on pointe déjà du doigt sur les paquets, etc. Et la liberté, elle est où, la liberté? On peut quand même fumer? Depuis la nuit des temps, on fume? Ben, on va continuer à fumer. Moi, je fume le cigare.
Oui, mais.
Très content.
Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'on manque de moyens. On manque de moyens pour acheter les Canadair, on manque de moyens.
Oui, mais ça n'a rien à voir avec les cigarettes.
Bah, de moyens matériels. Donc, s'il peut y avoir une piste pour arriver à récupérer un petit peu d'argent sur les 10-15 milliards que rapporte l'industrie du tabac.
On est en train d'asphyxier les ventes de tabac, les buralistes le disent, maintenant les tabacs ne sont plus achetés en France. C'est quand même, c'est vintage, c'est hyper ringard comme initiative. Là, franchement, le mec, faut qu'il se remette en cause parce qu'il va être viré par les prochaines élections.
Oui, mais je regardais le prix d'un Canadair, c'est 50 millions d'euros. Un Canadair aujourd'hui, tu vois. Les départements, c'est l'argent public qui finance les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours. Donc c'est notre argent, et tant mieux, puisque s'ils sont au service de la collectivité, et quand ils interviennent sur des incendies, c'est pour le bien commun, et protéger nos forêts. C'est 5,5 milliards d'euros. Le budget des départements qui finance 60% des 5,5 milliards. Donc, si tu demandes, alors là, pour le coup, je rejoins un peu Charles, si tu demandes une petite contribution aujourd'hui au privé et que ça t'allège un peu ou que ça aide finalement à acheter des camions de pompiers ou des Canadair, genre pas, et puis c'est plutôt vertueux.
Oui, j'ai fait des études de droit et dans mes cours de finances publiques, j'étais un très mauvais étudiant. Parce que j'étais pas assidu, mais j'ai quand même retenu un certain nombre de choses. Il y a une règle en droit de la finance publique de non-affectation des recettes aux dépenses. Donc ce monsieur Neuder, il est même pas au courant de ça. C'est-à-dire quoi? C'est démagogique, c'est de la communication pour vraiment de manipuler les gens. Parce qu'on ne peut pas créer une recette pour l'affecter à une dépense. On se fout du monde, là.
Mais comment tu finances alors? Comment
on ce qu'aujourd'hui Emmanuel, c'est vrai, c'est que normalement oui, mais... on ne peut pas dire on va collecter tel impôt qu'on va flécher directement à telle dépense. Voilà. Mais oui, d'ailleurs, je vois pas pourquoi. Bah, on n'a qu'à changer cette règle.
Beaucoup aujourd'hui demandent à ce que les impôts soient fléchés directement.
Bien sûr. Ça serait une bonne réforme. Je pense que tout le monde est d'accord sur ça, non?
Parce que là aujourd'hui, regarde, on sait que de manière systémique, on va manquer de pompiers. Donc il faut réfléchir à une autre organisation aujourd'hui des pompiers. Il va manquer, je crois, 50 000 pompiers d'ici 2030.
Et déjà, les pompiers, ils sont rattachés à l'armée de terre. Déjà, l'armée a du mal. Mais déjà, l'armée a du mal.
Pourquoi on va manquer de pompiers?
Pas assez. L'armée
recrute. Parce qu'il y a de moins en moins d'engagement au niveau des pompiers. Les pompiers qui interviennent sur les incendies, ouais. 90%.
C'est étonnant parce qu'il y a 8 millions de chômeurs.
C'est des volontaires. Là aussi, peut-être qu'à ce moment-là, il faut imposer un stage chez les pompiers.
Non, mais il faut faire pas d'allocation chômage avant 50 ans, ce qui est ma proposition.
Je propose
aussi
que Charles, dans le cadre de ses prochaines vacances dans le Jura, s'engage
chez les pompiers volontaires.
Je serais ravi,
d'autant qu'il y a beaucoup de sécheresse dans le Jura, donc il y a aussi des incendies de forêt dans le Jura. Pas d'allocation chômage avant 50 ans. T'as pas de boulot, t'as 35 ans, tu t'engages chez les pompiers, dans un resto, n'importe où, là où il y a du travail, tu ne touches pas le chômage. Pas d'allocation chômage avant 50 ans. Et tu verras qu'il y aura du monde pour bosser parmi les pompiers.
Mais oui. Pour revenir simplement sur la proposition de Yannick Neuder, là, qui dit aujourd'hui qu'il faut faire peser une nouvelle taxe sur les fabricants, il dit en plus... Et là, il a pas tort. Il dit, c'est un produit qui est nocif, sur lequel il y a écrit « fumer tue ». C'est un produit sur lequel, en plus, il y a un cynisme total, puisque on nourrit l'État avec un produit qui est toxique et qui est nocif. Il dit donc, je vois pas pourquoi on l'utiliserait pas là à des fins qui sont plutôt des fins humanistes et utiles, puisque là, pour le moment, si tu veux, les 15 milliards qui sont prélevés, elles partent dans le tonneau des Danaïdes, des dépenses sociales et autres. Oui. Donc, au moins, tu récupères un peu, ça fait 350 millions d'euros.
Répète,
non, mais attends,
ça tombe dans le tonneau, justement, il n'y a pas d'affectation.
Oui, mais dans,
dépense.
Mais dans ces cas-là, tu peux réformer. Aujourd'hui, on arrive à faire passer des lois pour tout et n'importe quoi. Oui. On doit quand même pouvoir arriver à ce moment-là, à un moment ou à un autre, à changer ça. Oui. Et à dire, là, c'est 350 millions d'euros, désolé, ça va nous permettre d'acheter 3 Canadair et on va les acheter tout de suite. Et tu flèches. Enfin, le pouvoir politique, il me semble qu'il doit pouvoir faire à un moment ce qu'il veut. D'autant que là, aujourd'hui, on voit les fléaux des incendies. On voit le manque de moyens. On voit les pompiers qui sont morts. Donc, enfin, je vois pas pourquoi, si tu veux, d'un coup, on prend pas une décision ferme et radicale.
Moi, je trouve que c'est très bien, ce truc, bien sûr.
Oui, mais c'est une manque d'anticipation de l'État. Quand on est ministre de l'Intérieur, on réfléchit et on prend les décisions pour la suite. Monsieur Darmanin n'était pas au courant qu'il y avait
parce
un
risque. Le problème, effectivement...
Florent, un peu paradoxal, parce que tu vois, sur la sécurité... sur le casque et sur le gilet, tu disais bah oui, là c'est une question de sécurité, il faut pouvoir l'imposer. Et puis là où on a une proposition qui pour le coup paraît assez logique, oui, mais là tu dis on est simplement dans la com.
En fait, je suis pas pour, je suis pas contre, c'est juste une goutte d'eau dans un océan. Donc oui, on peut le faire si vous voulez. Juste ça va pas régler le problème du réchauffement climatique.
Non, mais c'est pas le réchauffement climatique, c'est simplement les moyens.
Oui, mais
abonder
en fait, les moyens d'intervention. Les feux, ils vont continuer et ils vont être de plus en plus conséquents et de plus en plus nombreux. Donc comment on va faire? Parce qu'une fois qu'on aura taxé le tabac, on va se dire qu'on taxe les fabricants de bouteilles en verre puisque c'est aussi, et après on va taxer les randonneurs puisque c'est aussi eux qui risquent de jeter des déchets. Et après, on va taxer qui? En fait, ce que je dis, c'est que c'est une manière de détourner l'attention pour éviter de traiter le vrai problème. C'est mettre un pansement. C'est comme, je suis désolée, c'est comme quelqu'un qui a un cancer du sein, on lui dit, on va vous financer, un cancer tout court, on va vous financer votre perruque. Oui, bon, c'est sympa d'avoir une perruque financée. Peut-être qu'il y a plein de gens qui vont être contents. C'est pas comme ça qu'on va avancer efficacement contre le cancer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, à un moment,
là n'empêche pas.
Non. Là, le sujet, c'est quoi? C'est que chaque dixième de degré de réchauffement en plus va rendre notre vie relativement, partiellement ou totalement insupportable. Donc, est-ce qu'on veut que notre vie, elle soit relativement, partiellement ou totalement insupportable? C'est ça le choix qui est sur la table. Moi, j'aimerais qu'elle soit le plus supportable possible. Pour qu'elle soit le plus supportable possible, on a une réforme économique mondiale à conduire.
Oui, mais regarde, tu acceptes.
On peut aller taxer Philippe Maurice. Oui, si vous voulez, mais bon, on règle pas le problème.
Oui, mais regarde, aujourd'hui, toutes les taxes qu'on fait sur le carbone, les taxes qu'on fait sur les carburants pour financer l'écologie. Il y a des automobilistes qui disent, mais moi, regardez, même en ayant un SUV hybride, je suis taxé alors que j'ai acheté un SUV hybride. Tout parce que j'ai une grosse...
Bidon, non, mais d'accord, hein. Donc si tu veux, je suis pour la taxe.
Donc si tu veux, il y a des taxes qui sont acceptables. Et d'autres qui ne sont pas acceptables. Il y en a qui paraissent complètement aberrantes.
En fait, le sujet, c'est quoi? C'est que le jour de canicule.
Comment est-ce qu'on trouve des moyens aujourd'hui pour pouvoir lutter efficacement contre les incendies?
Le jour de canicule 2026, le plus meurtrier, était plus meurtrier que le jour le plus meurtrier du Covid. OK? Donc, la canicule a plus tué en intensité que le Covid. Quand il y avait le Covid, l'État était en cellule de crise. Le président de la République, en personne, est allé dans les médias nous dire quoi? Nous dire, nous sommes en guerre. On a fermé les écoles. Vous vous souvenez? On a arrêté de travailler. On a dit aux entreprises, vous mettez en place le télétravail, vous vous débrouillez. Il y a une urgence sanitaire. Et là, il y a une urgence encore plus grave et on dit rien. Et là, il y a un ancien ministre qui arrive et qui dit, peut-être qu'on va taxer l'industrie du tabac, c'est peut-être pas mal.
Ancien ministre,
oui, ou alors, tu sais
mois,
ce qu'on va faire? On va payer de la crème solaire aux gens parce que comme ça, c'est bien. Moi, je suis pour. De toute façon, je suis pour les aides. On va, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut payer des seaux et des râteaux aux enfants pour qu'ils s'amusent à la plage, parce que c'est vrai qu'un enfant qui peut pas construire un château de sable, il s'ennuie. On peut faire quoi? En fait, jusqu'où on va en absurdie? Moi, ce que je vous dis, c'est que la canicule, proportionnellement, elle est plus meurtrière que le Covid. Donc, dans un cas, on ferme les écoles et tutti quanti, dans l'autre, on fait rien. Voilà.
Bon, on a Hervé qui va intervenir au 32-16, qui est manager en restauration du côté de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Bonjour Hervé.
Bonjour les gestionnaires.
Que pensez-vous de l'idée de Yannick Noeder alors de taxer l'industrie du tabac alors?
Alors, je vais juste faire une petite aparté. Deux secondes avant, Charles, il faudrait que vous appeliez Doc Marty, parce que je pense que ça va pas aujourd'hui. Entre le casque que vous voulez pas que les cyclistes portent et vous êtes OK pour une taxe, ça va pas. Concernant la taxe, moi je trouve ça complètement débile.
Marty, il est trop excité, il faut un médecin plus calme.
Non, on l'adore.
Je trouve ça complètement stupide parce que dans ce cas-là, pourquoi on taxerait pas les constructeurs auto pour l'accident de la route qui a donné Il faut savoir, alors je sais plus, hein, je me souviens plus d'années, mais il y a quelques années, il y a un budget. Mais
je signale que les constructeurs auto, ils sont déjà taxés sur l'écologie, hein, de toutes les manières. Alors qu'il y a, les moteurs n'ont jamais été aussi propres, alors qu'on va de plus en plus. Mais si, les moteurs, bah, je suis désolé, les moteurs thermiques.
On est en train de se faire, les moteurs complètement disruptés par les Chinois. Parce qu'ils ont été plus réactifs que nous sur la création.
Ils sont passés à l'électrique, on va bientôt taxer l'électrique.
Va te promener dans la rue, tu vas voir que des
Alors, allez-y, Hervé, pardon, je vous ai coupé.
Voilà, enfin, si on, en fait, si on cherche la cause partout pour tous les problèmes, on peut trouver en remontant jusqu'au la création de la chaîne. Comme je crois que c'est Flora qui disait ça tout à l'heure, c'est plutôt mettre un arbre pour cacher la forêt. Et en fait, il fait une proposition parce que l'État est complètement en tort. Je crois que c'est sur BFM que une fois il y avait le chef des pompiers du sud, qui expliquait que la zone ne les prévenait pas en temps et en heure des débuts d'incendie, à savoir que la zone c'est dirigé par le ministre de l'Intérieur, je crois. Mmh. C'est ce qui leur donne les informations. Il y a un budget de 800 millions d'euros qui aurait dû être voté pour acheter des canadaires, ça n'a pas été voté, notamment si je me trompe pas, parce que la gauche a voté contre. Voilà, enfin, c'est tout ça, c'est la faute de l'État et ils cherchent à cacher. Cherchent à cacher leur erreur.
Donc vous dites, voilà, plutôt intéressons-nous à la gabegie de l'État, au dysfonctionnement de l'État, avant de mettre en place une nouvelle taxe, quoi. C'est ça.
Bien sûr, bien sûr. Là, j'entends, en plus, là, je suis excédé. J'entends sur RMC, notamment, bon, je sais que vous passez de la pub pour l'État, vous n'avez pas le choix. Je sais pas si vous l'avez entendu, des milliers d'hectares de forêt ont brûlé. Aidez-nous, donnez de l'argent pour aider à reconstruire. Mais c'est quoi ce délire en fait? On doit payer pour tout. Déjà les gens ils ont tout perdu et en plus dans le sud ils doivent aussi donner de l'argent pour reconstruire les forêts. À un moment donné, faut que l'État se prenne en main et fasse son boulot en fait. C'est tout.
Hervé, c'est votre coup de gueule qui aura conclu la discussion. Je vous remercie d'avoir été avec nous, Hervé, manager en restauration. On a posé la question sur les réseaux sociaux. L'ancien ministre de la Santé, Yannick Noder, veut taxer l'industrie du tabac pour lutter contre les incendies. Bonne ou mauvaise idée? Vous dites mauvaise idée à 65%. Enfin, il y a quand même... tu vois, Charles, tu as 34,8% d'opinion favorable.
Tu passes le premier tour.
C'est ce que j'allais te dire. Ça te fait passer un premier tour. Tiens, dans un instant, est-ce que c'est encore une idée à la con ou pas? C'est l'ancien ministre. Il est candidat à l'élection présidentielle, Xavier Bertrand, qui estime qu'il faudrait peut-être revenir au septennat. Voilà. Alors là, oui.
Oui, absolument. Oui.
Non, il est candidat, mais il est tout seul.
Oui, mais peut-être, mais Bruno Retailleau est assez pour, et le président du Sénat, Gérard Larcher,
on va en parler. L'est aussi. Il y a aussi une vérité sur le passage au quinquennat dont on va parler.
Eh ben, on va en parler avec vous au 32-16. Est-ce que le prochain président élu doit revenir au septennat, un septennat unique? 32-16 pour en discuter avec les GG, il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules avec vous, bien sûr, comme tous les jours. C'est reparti pour le direct de 9h à midi à la radio. C'est RMC, à la télé, c'est RMC Story. Aujourd'hui, nos trois GG, Flora Guevalli, Charles Consigny et Emmanuel Devilliers. Il nous reste deux sujets de discussion. La nouvelle canicule, la cinquième, qui arrive. Est-ce que vous êtes au bout du rouleau? Est-ce que vous êtes crevé? Est-ce que vous n'en pouvez plus? Ça agit sur les organismes. Là, ça va encore remonter jusqu'à 40 degrés. On en parlera tout à l'heure à midi moins 20. Ou au contraire, vous avez pris des dispositions aujourd'hui pour faire en sorte de l'encaisser correctement. Alors, vous venez en parler. D'abord, on va faire un petit peu de politique. On va s'intéresser au septennat. Il y a une espèce de petite musique un peu nostalgique là du septennat. C'est Xavier Bertrand, candidat à l'élection présidentielle, candidat potentiel, pas encore déclaré officiellement. Gérard Larcher, le président du Sénat, et Bruno Retailleau, président des Républicains, qui se disent prêts à revenir à un mandat élyséen de 7 ans. Donc on voit que c'est du côté de la droite. Ça avait été abandonné par Jacques Chirac en 2000 au profit du quinquennat. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en 2017, Emmanuel Macron avait évoqué l'idée d'un retour au septennat. Marine Le Pen avait dit qu'elle n'était pas contre, ça méritait peut-être réflexion. Alors, est-ce que ça peut donner un nouveau souffle à la politique de revenir à un septennat, un mandat de 7 ans, non renouvelable? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Emmanuel Devilliers.
Alors, il faut d'abord soulever le pavé de la vérité de pourquoi on est arrivé au quinquennat, parce qu'on a oublié. Ça n'a pas été dit dans les commentaires, mais c'est parce que Jacques Chirac caressait le désir d'être réélu après un premier mandat de 1995 à 2002, donc dans le cadre du septennat existant. Et en 2000, il a, de manière très démagogique, avec tout un aréopage de commerciaux politiques pour faire passer la pilule, proposé le quinquennat. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il se représentait dans le cadre d'un septennat, il n'aurait pas été réélu. Parce que on aurait évoqué l'usure du pouvoir, etc. Et il a réussi son coup puisqu'il a été élu pour un quinquennat. Non, le quinquennat a été un cancer de la Ve République parce que c'est par le fait même un système d'élection permanente. C'est un système ensuite d'adéquation entre la situation parlementaire avec les élections législatives et la situation présidentielle qui en fait pose beaucoup de problèmes contrairement aux apparences. Alors là, maintenant, on parle, je crois, Alain, d'un septennat potentiellement non renouvelable. Mm-hmm. Donc c'est déjà, de toute façon, une dénaturation, puisque rappelons que François Mitterrand a fait deux septennats consécutifs.
Le président de la cinquième.
Voilà, donc ce passage au quinquennat a été vraiment une erreur. Et Jacques Chirac, indépendamment de son charisme, du bon souvenir qu'il laisse chez un certain nombre de Français, notamment âgés, a commis des très graves erreurs. La suppression du service militaire, la dissolution en 1997. Pourquoi? Parce que cette dissolution a amené les 35 heures qui ont coulé l'économie française. Donc le passage au quinquennat, institutionnellement, a également déstabilisé complètement notre pays.
Alors Flora, spontanément, avant la pub, t'as dit « Ah oui, septennat ».
J'ai toujours été pour, mais surtout septennat unique. C'est-à-dire, vous partez pour 7 ans, mais vous ne pouvez pas vous représenter après. Et enfin, vous pouvez vous représenter. Enfin, oui, septennat unique, quoi. Vous pouvez pas vous représenter après. Sortez, pardon. Ouais. Après, vous sortez. Pourquoi? Parce que le problème qu'on a avec les deux quinquennats, c'est que à l'heure où le président de la République est élu, il pense à sa réélection 5 ans après. Et donc, en fait, il va prendre des décisions politiques qui sont pas forcément guidées par le bien-être de la nation, mais plutôt guidées par comment je fais pour me faire réélire. Et ça, c'est pas bon. Et ça explique aussi qu'il y ait plein de réformes hyper importantes qui n'aient pas été faites ces dernières années, alors qu'on en avait vraiment besoin. Donc je pense que le septennat unique, ça permet vraiment de répondre, et il faudrait aller beaucoup plus loin et demander à un président de rendre des comptes régulièrement dans son mandat, notamment sur ses promesses de campagne. Moi, par exemple, j'ai vraiment pas compris ce deuxième quinquennat Macron. Il n'a rien à voir avec les promesses qui étaient faites en 2022, et j'aurais aimé que Emmanuel Macron ait rendez-vous avec les Français pour être comptable de ses promesses et de son bilan. Et c'est pas le cas. Donc en fait, quand on est élu, il faut aussi en fait, on vit juste un truc. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Ce pouvoir-là, ok, il est représentatif, c'est-à-dire que on donne notre pouvoir à quelqu'un, par exemple, au président de la République, en l'occurrence Emmanuel Macron, pour nous représenter. Ça veut pas dire on lui donne les clés du camion et après on demande pas de compte et on demande rien. Aujourd'hui, on a des moyens technologiques qui nous permettent de savoir qui fait quoi en temps réel partout. Pourquoi on les utilise pas aussi pour faire plus de votes, faire plus de sondages d'opinion, faire plus de cahiers de doléances. Les cahiers de doléances en mairie, ils ont été remplis. Il y a une étude qui montre qu'il y a de quoi aller de la France à la Lune en cahier de doléances avec les doléances des Français. Et ça, après, on les a enterrés parce qu'en fait, la démocratie, ça fait peur à ceux qui nous gouvernent. Moi, j'ai pas peur de la démocratie.
Rien n'empêche quelqu'un
de faire. Je pense qu'il faut démarrer par, effectivement, cette très bonne idée de Xavier Bertrand, septennat unique, mais après, il faut aller beaucoup plus loin.
Oui, mais pourquoi unique? Alors, aussi, de manière annexe, effectivement, c'est une multiplication des anciens présidents. Ça devient grand guignolesque, parce que dans 10 ou 15 ans, on aura 5 ou 6 anciens présidents.
Parce qu'on a eu des derniers présidents jeunes. C'est oui. Ça aussi. Ouais. Charles Consigny, est-ce que tu es d'accord avec l'idée de passer au septennat?
Je suis pas forcément contre. Je pense qu'on se fait beaucoup de nœuds au cerveau. C'est pas forcément le sujet majeur. Ce qu'on voit quand même, c'est que certains disent oui, mais si on ne permet pas au président de renouveler son mandat, son autorité s'écroule assez vite parce que bon, il peut pas se représenter, etc. Emmanuel Macron, il a quand même réussi à garder la main sur tout ça, encore maintenant. Hein, c'est vraiment son premier ministre, il prend encore beaucoup de décisions, alors même qu'il va pas renouveler son mandat à la prochaine élection. Donc je pense que cet argument-là plaide plutôt en faveur du coup d'un mandat non renouvelable. Pourquoi pas faire ce septennat? Why not? Mais je suis pas sûr que ce soit le sujet oui. principal de la France.
C'est un sujet institutionnel.
Mais why not? Et en revanche, ce que je pense, c'est
le sujet, le sujet, le véritable sujet, c'est celui du courage politique.
Moi, je serais plus pour la suppression de la fonction.
De président.
Oui, pour faire un truc plus comme ça existe en Italie, en Allemagne, dans plein de pays.
C'est-à-dire un.
En fait, on fait des élections législatives. Le leader de la famille qui arrive en tête prend la tête du gouvernement et c'est lui qui gouverne. Je suis pas sûr que le maintien indéfiniment.
Un régime parlementaire, un vrai régime parlementaire.
Oui, je suis pas sûr que le maintien indéfiniment de cette espèce de super fonction bizarre où on sait pas si c'est un roi, si c'est autre chose. Est-ce que c'est très moderne? Est-ce que je sais pas. Je suis pas certain du truc. Parce que si on fait un septennat non renouvelable, mais qu'on maintient des législatives tous les 5 ans, ça voudra dire que il y a de fortes probabilités pour que le président se retrouve en cohabitation les 2 dernières années. Donc on se retrouve encore avec un système foireux où le président veut quelque chose que ne veut pas le Premier ministre et le Parlement. Ça voilà. Il n'y a pas de système idéal. Il n'y a pas un pays dans le monde qui soit vraiment gouverné par un système idéal. Regardez l'état de la classe politique en Angleterre. Ils sont tous totalement essorés. Ils n'ont que des ectoplasmes comme Premier ministre. C'est pas idéal.
Le régime chinois, ça marche pas si mal.
Oui,
je plaisante.
Donc pourquoi
mais aujourd'hui,
pas,
c'est le pays qui est devenu une vraie puissance,
pas que ce soit
qui avance au pas de charge. Malheureusement, c'est le régime chinois. Quoi.
Ou encore,
on peut pas dire que la démocratie américaine soit en pleine forme non plus.
Non.
Quoi, tu
ou encore l'Arabie Saoudite.
Ouais, bah, les Émirats dans leur ensemble.
Et vous envoyez un SMS de critique du gouvernement et vous finissez en prison à perpétuité.
Non, mais
vous faites torturer. Donc
bien sûr,
super.
On est d'accord.
Je pense que n'importe quel Français qui habiterait un quart d'heure dans un pays totalitaire reviendrait en s'excusant et en disant que la France, c'est génial.
Ouais, aux Émirats, par exemple, les Français sont très contents.
Oui, parce qu'ils ne payent pas d'impôts
et
de la vie de ce pays qui n'est pas le leur.
On a Arnaud qui veut intervenir. Arnaud, il nous appelle du Bas-Rhin. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour les GG.
Bienvenue. Alors, septennat ou pas?
Alors moi, je suis pour le septennat, le retour au septennat. Je pense que c'était une erreur de Jacques Chirac de passer au quinquennat. Je voudrais juste faire un rappel quand même, juste pour dire quand même, on est dans un régime où on a un président de la République. C'est pour une chose importante. C'est que le général de Gaulle le voulait parce qu'il y avait la dissuasion nucléaire et qu'il voulait qu'une personne seule puisse décider de pouvoir appuyer ou pas appuyer sur le bouton. Si on est dans un régime parlementaire, ça devient un peu plus compliqué.
Et, et le général de Gaulle avait connu le régime des partis aussi, les Républiques,
voilà,
le 3e et 4e, qui avaient du mal à fonctionner avec les alliances, où les gouvernements tombaient régulièrement aussi.
Exactement. Donc moi, je suis pour rester pour un régime présidentiel, mais avec un septennat. Je trouvais que le septennat avait l'avantage d'avoir, pour le président, une vision à plus long terme, non pas sur 5 ans, mais sur 7 ans. Donc, il réfléchissait peut-être un peu plus loin que le bout de la lorgnette avec 7 ans de pouvoir. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'il savait que au bout de 5 ans, il pouvait être sanctionné s'il n'avait pas de bons résultats avec une cohabitation, comme on a eu 2 fois, une fois avec Jacques Chirac, une fois avec François Mitterrand précédemment. Donc je trouve que ce système était plutôt bien et c'était à mon sens une des erreurs, et pourtant je suis un électeur de droite, hein, mais une des graves erreurs qu'a fait le président Chirac lors de ces deux...
Est-ce qu'aujourd'hui le problème c'est pas plutôt une question de vision et de vitalité politique plus que de savoir combien de temps va durer le mandat présidentiel? Vous voyez, Florent, elle prenait un bon exemple, c'était quand elle disait tout à l'heure, de manière un peu triviale, la Chine est en train de nous rouler dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se demande où est la vision de nos responsables politiques pour notre pays. Donc, que vous soyez dans un quinquennat ou dans un septennat, ce dont vous avez envie, c'est d'élire une personne qui vous dit, voilà ce que je compte faire, voilà où je compte vous emmener, voilà comment je vais libérer les énergies, vous voyez, voilà les réformes qu'on peut mettre en place. Le français peut toujours être contradictoire parce que la réforme, ça commence toujours par le voisin et pas par le...
Dans un an, il y aura ça qui sera mis en place, dans 2 ans, il y aura ça, dans 3 ans, il y aura ça, et chaque année, je fais revoter la confiance
Il n'y a plus d'argent, maintenant, il n'y a que des mauvaises nouvelles à proposer, et là, on n'est pas élu. Là, on a un blocage démocratique.
Alors, je rejoins Charles.
Si je pouvais rajouter quelque chose, Allô ?
Oui, allez-y.
Oui, oui. Non, mais vous avez tout à fait raison. Le quinquennat ou le septennat, ça ne va rien changer sur, entre guillemets, la qualité de nos hommes ou nos femmes politiques aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une génération qui n'a pas véritablement une vision à long terme de la politique, mais plutôt une vision à très court terme, peut-être pour se faire réélire, possiblement. Mais moi, je défends les politiques, quel que soit le bord, d'ailleurs, parce que je pense que ce sont des gens qui sont là quand même...
Pour l'intérêt
général. En globalité,
général.
Pour l'intérêt général. C'est, c'est un métier qui n'est pas facile, c'est pas le métier le plus rémunérateur. Mais c'est le seul métier au monde où, quand vous avez une idée, vous pouvez la mettre en place. Donc c'est très grisant, c'est très valorisant. Et voilà, c'est pour ça que les politiques veulent garder leur place. Mais c'est clair que le septennat ou quinquennat, ça ne va rien changer. Mais dans la situation actuelle, je pense que le septennat serait mieux quand même que le quinquennat, qui a été une grave erreur.
Ouais, mais le tout est de savoir quelle formation politique aujourd'hui est la plus à même de on verra, hein, puisque on a les élections là qui arrivent, mais de parler correctement aux Français, c'est-à-dire là certains.
Mais pour un mauvais projet.
Les deux projets les plus précis, François Bayrou dit que ce sont deux catastrophes pour le pays, c'est-à-dire le Rassemblement national d'un côté et la France insoumise de l'autre. Alors je sais pas, ça c'est les électeurs qui trancheront et qui décideront. Mais ensuite, est-ce que c'est une question, je le répète, de quinquennat ou de septennat? C'est plutôt question de quel projet on va porter pour le pays. Sûr. Et puis ensuite, au milieu, est-ce qu'il faut des élections de mi-mandat? Un peu comme aux États-Unis. Est-ce qu'il faut, après deux ans ou trois ans de pouvoir, avoir des élections de façon à ce que les Français disent, les trois premières années, c'était bien, ou on vous donne, on vous enlève votre majorité, on vous met en cohabitation, vous voyez, Arnaud?
Vous avez tout à fait raison. Je crois qu'aujourd'hui, moi, je m'estime faire partie des gens raisonnables. Et je suis d'accord que, de toute façon, la solution extrême-gauche ou la solution extrême-droite n'est pas la bonne solution. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans un pays qui se radicalise de plus en plus.
Bah moi, j'interviens dans les médias. Ce sont des projets qui sont clairs après 10 ans de godille. En fait, aujourd'hui, les deux projets qui se radicalisent, qui sont radicaux, ce sont ceux qui justement émergent quand vous avez eu 10 ans de godille, 10 ans de centrisme, quoi. Voilà, c'est logique.
Oui, mais bien sûr, mais vous avez raison. Vous savez, moi, ce que je reproche à Emmanuel Macron, c'est surtout d'avoir annihilé les oppositions constructives, d'avoir fait croire aux gens, aux Français, que la gauche et la droite c'était la même chose. Non, la gauche et la droite c'est pas la même chose. Et moi, je vois bien dans les familles françaises, vous aviez des gens avant qui étaient au Parti socialiste et d'autres qui étaient à l'UMP. Dans les repas de famille, ils se criaient dessus. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés les deux à voter Emmanuel Macron et ils s'embrassaient sur la bouche. Ouais. Mais c'est ça qui est hallucinant. C'est qu'en fait, fondamentalement, la politique n'a pas changé. Les positions n'ont pas changé, mais un homme a voulu faire croire qu'il n'y avait pas de différence entre la droite et la gauche, alors qu'il y en a énormément.
Arnaud, on va laisser le Bas-Rhin et Strasbourg de côté pour aller du côté du Vaucluse à Roussillon retrouver Dominique, psychologue du sport, un fidèle des GG. Bonjour Dominique.
Bonjour les GG, bonjour les auditeurs.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, Dominique, alors?
Pour moi, c'est une évidence. Je suis même surpris que ce soit Xavier Bertrand qui le propose, parce que ce sera une des rares propositions que Xavier Bertrand ait pu faire qui soit intéressante. Pour moi, c'est une évidence. Il faut absolument le faire. Ça évitera d'avoir un président de la République qui prépare pratiquement dès son élection le deuxième quinquennat et l'élection du deuxième quinquennat. Pour cela, il faudra un septennat unique, mais il faudra surtout mettre en place un spoil system comme aux États-Unis, c'est-à-dire que l'on change toutes les têtes de toute la haute fonction publique et de toutes les grandes, le Conseil d'État, le Conseil Constit, la Banque de France, etc. Il faut changer tout le monde en même temps, de manière à ce qu'il ait vraiment les coups des franches pour pouvoir mettre en place une nouvelle politique qui réparera les politiques précédentes si elles ont été menées de travers, ou qui donnera une nouvelle impulsion à un pays qui en aura besoin. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que tout est verrouillé et que tout est organisé pour maintenir finalement le pays dans un état de déliquescence qu'il est, et on peut faire que ce constat, et surtout empêcher justement de changer les choses et que de par ce fait, on puisse se dire « Ah, ils étaient vraiment mauvais ceux d'avant ». Donc je pense que vraiment il va y avoir une
concomitance. Et vous faites les législatives en même temps que la présidentielle ou pas ?
législative en même temps que la présidentielle. Alors là, je sais pas comment il faudrait organiser ça. C'est non seulement en même temps que la présidentielle, mais il faudrait presque un mid-term comme aux États-Unis, un mi-mandat, pour pouvoir redonner une impulsion si c'est nécessaire ou sanctionner une politique qui n'a pas été menée par des promesses qui n'ont pas été tenues. Mais
c'est un peu le cas déjà avec les élections au bout de 5 ans. Il faut se souvenir que Valéry Giscard d'Estaing en 78 devait perdre les législatives, il les a gagnées. Mitterrand les a perdues en 86, il les a perdues en 93. Ce système déjà de correctif mid-term au bout de 5 ans existe.
Oui, mais le vrai souci qu'il se pose, c'est qu'aujourd'hui, tout a été faussé par les fameux barrages. C'est-à-dire qu'on n'est plus... Moi, j'attends qu'on me propose quelque chose, qu'on ait un vrai projet,
Après le barrage, vous êtes obligé de le suivre, l'appel au barrage républicain.
Mais moi, je ne vais pas le suivre. Mais beaucoup de gens le suivent. Beaucoup de gens qui sont finalement... dans l'expectative, qui n'ont pas forcément choisi ou qui n'ont pas forcément d'idée sur... Ils vont faire le barrage parce qu'il y a le martelage médiatique, le martelage des partis. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir un vrai mid-term et un septennat unique et un vrai spoil system. C'est la seule manière aujourd'hui de changer les choses. Le problème, c'est qu'on n'y va pas parce qu'on repart pour un quinquennat et je ne pense pas que soit Marine Le Pen, soit Mélenchon, soit Philippe, soit Attal, soit tous ceux qui se présentent auront envie de mettre ça en place. Je suis pas certain.
Bah, Dominique, je vous remercie d'avoir été avec nous. On a posé la question au retour du septennat. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que vous êtes partagé? Le retour du septennat, vous êtes contre à 52,7 pour à 47,3. Donc vous êtes assez partagé. Allez, dans un instant, on termine avec vos témoignages. On va aller vers une cinquième canicule. Je regardais la carte de France. On va avoir encore des températures qui vont monter à 39, dépasser les 40 degrés. Le pic attendu, c'est vers le milieu de la semaine. Est-ce que vous n'en pouvez plus? Est-ce que vous en avez ras-le-bol? Est-ce que vous tenez le choc encore? Ou est-ce que vous êtes au bout du rouleau? 32-16 pour nous dire là, dans les 10 dernières minutes, comment vous vous adaptez. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
GG de retour en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Et vous avez les podcasts que vous pouvez retrouver si vous avez raté l'émission aujourd'hui. C'est sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Vous allez dans l'onglet les grandes gueules. De retour en direct avec vous au 32-16 pour discuter, pour débattre, pour faire part de vos impressions, de ce que vous vivez en particulier là avec la canicule. Parce que ça y est, c'est reparti. Mais au soleil, 22 départements du centre et du sud-est de la France sont en vigilance orange. Nouvel épisode caniculaire, c'est le cinquième. Mardi, la chaleur va monter, s'étendre à de nombreuses régions avec des maximales qui vont atteindre 39 degrés dans le sud. Et le milieu de semaine, ça va être le pic. Et puis en plus, il y aura l'éclipse. Je crois que c'est après-demain, mercredi. Moi, la question que je vous pose, franchement, c'est est-ce que vous tenez le coup? Est-ce que vous tenez le coup? Parce que là, pour revenir de vacances et avoir croisé pas mal de monde, il y a des gens, en particulier âgés, qui disent « c'est pas possible ». Ils
sont épuisés.
Ah ouais, ils sont épuisés, on n'en peut plus. Même moi qui suis du Sud, il y a des moments où je dis « ah non, c'est bon, là, aujourd'hui je sors pas ». J'y arrive pas, j'en peux plus. Ou alors, à la limite, si on m'avait proposé à ce moment-là d'aller au supermarché, j'aurais presque dit « ah ouais, j'y vais, au moins je suis à la clim ». Donc, est-ce que vous tenez le coup ou est-ce que vous êtes franchement là, vous n'en pouvez plus? 32-16 pour le dire au GG, Flora.
Moi, personnellement, je tiens le coup, moralement, c'est difficile parce que je sais... Déjà, je savais que ces canicules allaient arriver puisque je lis les rapports scientifiques depuis 10 ans sur le climat. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, ce qui est très dur, c'est que l'apéro. Hein. Je suis désolée, je veux pas démoraliser les gens avant une canicule en plus, mais il se passe rien encore, c'est pas grand chose. Et par contre, il se passe pire que ce que disent les rapports. Donc, les rapports que tout le monde a dit, oui, les scientifiques sont alarmistes, ils sont là pour nous angoisser, etc. Bah, en fait, non, ils étaient en deçà de ce qui se passe vraiment. Donc, non, c'est que l'entrée, moi, ce qui me glace le sang, c'est de voir l'inaction politique face à tout ça. C'est qu'on peut pas et se plaindre et ne rien faire. C'est pas possible.
Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire?
Il fait chaud. Ah bah, plein de choses. Il y a tout plein de mesures pour limiter le réchauffement climatique qui existe. À commencer par arrêter la combustion d'énergie fossile, qui est la responsable directe du réchauffement climatique.
Pas que la France ne représente qu'un pour cent du problème. Donc,
par exemple, arrêter de commercer avec les pays qui respectent pas nos normes à l'échelle européenne. Par exemple, fermer le marché européen aux produits chinois. Ce serait une super réforme. Par exemple, ne pas reculer sur le recul sur l'interdiction des moteurs thermiques à 2035 qui avait été voté à Bruxelles et sur lequel on a rétropédalé. Faut continuer. Bah oui. Et surtout, il faut.
Tout à l'heure,
Charles, il disait, c'est bien sur le sujet des violences sexistes et sexuelles de jeter la pierre sur qui est responsable. Et ben, il faut faire pareil. Il faut nommer les responsables, les condamner et surtout les condamner à la limite, je m'en fiche, les mettre hors d'état de nuire. Mais c'est vrai. Et en fait, à un moment, il faut juste mettre les personnes compétentes au poste de responsabilité. Par personne compétente, j'entends juste les gens qui ont lu les rapports, en fait, et qui croient la science.
Les préconisations que tu émets seraient pires que le mal, outre d'être totalement inefficaces.
Oui, c'est sûr qu'entre mourir de chaud rouler en voiture électrique,
Flora, je pensais qu'il ferait pas beau en août, comme toujours, on a normalement les étés, il fait beau à un moment donné, il fait moins beau. C'est vrai que c'est complètement extravagant.
Oui, on a pas les orages du mois d'août.
Les chaleurs sont très, très accablantes.
Enfin, mais pas partout.
Permets-moi de te dire.
Et quand ils annoncent qu'il pleut, il pleut pas, vous avez remarqué.
C'est sans doute un été exceptionnel.
Non.
Et que c'est pas de mal avec, on va avoir beau comme ça tout l'été.
C'est un été tout à fait ordinaire, et l'été prochain sera plus chaud.
60 ans, je n'ai jamais eu souvenir d'un été aussi beau. Moi, j'ai déjà reculé.
Oui, mais tu vois, là où Flora a raison, c'est que quand tu regardes les perspectives, notamment avec les fameux phénomènes anticyclone et El Niño, ce qu'on te dit, c'est que ça va se renouveler et s'amplifier au fil des années, si tu veux. Et pour le moment, il faut
Et vous savez, pour l'instant, on parle de crise.
Les scientifiques sont pas trompés.
Et pour l'instant, on parle de crise, mais c'est pas vrai. C'est pas une crise. C'est l'état normal du monde. Donc en fait, il va falloir s'adapter. Et aujourd'hui, on dit mettez-vous à l'air, à l'eau, achetez-vous une clim, achetez-vous un ventilo. Mais en fait, quand il y aura plus de récoltes, parce que toutes les terres auront cramé, on fera comment? Quand il y aura plus, il va y avoir. Enfin, la crise, elle va continuer. Déjà, il y a des industries entières qui s'alarme. Par exemple, je vous donne un exemple, toute l'industrie du transport maritime mondial est très inquiète parce que avec l'assèchement de plein de canaux, etc., c'est en train d'abîmer toute cette industrie. Donc en fait, il y a tout un monde économique à repenser. On pourrait se dire il faut voir dans chaque crise une opportunité, on va repenser le monde, on va donner aux jeunes des perspectives de penser différemment, de produire différemment, de consommer différemment. Et non, on est gouverné par des boomers qui essayent de nous enfermer dans un monde qui nous fait cramer au sens propre du terme.
Charles,
c'est sûr qu'il y a un petit parfum de fin du monde quand même. Quand il y a ces grosses canicules, c'est quand même spécial. La nature souffre, on le voit.
Pas, toi ? Ça va ?
Non, moi j'ai une espèce d'origine un peu touareg. J'ai une peau mate et je tiens bien la chaleur, mais bon, je vois bien que je suis quand même évidemment beaucoup moins productif, beaucoup moins dynamique quand il fait 40 degrés ou 35 degrés que quand il en fait 25, ça c'est certain. Surtout, on voit beaucoup la nature souffrir, je trouve, partout. Même en Angleterre, où on était habitué à des gazons verdoyants.
Parce que bien arrosés.
Oui, mais pas seulement.
Par le climat, bien sûr.
Franchement, on voit, c'est marrant, on sent que les arbres ont chaud, etc. Moi, je vois dans le Jura, c'est vraiment raide. En revanche, c'est évidemment que la transition écologique, etc. Mais c'est pas en faisant à l'échelle de la France des toilettes sèches dans tous les lieux publics qu'on va enrayer les canicules. Il faut être lucide et essayer de faire des choses efficaces.
On a Thierry qui veut réagir. Thierry qui est du côté du Var, à Toulon. On a bien dégusté là, hein, Thierry. Bonjour.
Bonjour Alain, bonjour Gégé.
Et ça va continuer en plus, hein.
La semaine dernière, il y a 3-4 jours, on a pris 39,8 dans le jardin, à la station météo, donc impeccable. Il fait chaud, mais oui.
Vous tenez le coup, franchement, ça vous fatigue pas quand même, même si on est du sud et qu'on a l'habitude, quoi. Parce que là, on est quand même au-delà des températures, Thierry, allez-y.
Alors oui, c'est sûr que quand on sort du bureau climatisé toute la journée, qu'on rentre à la maison, ah, c'est vrai que sur le transfert entre les deux points, c'est un peu chaud. Bon, oui, voilà, c'est une année un peu particulière. Ça, pas certain du tout qu'elle se reproduise l'année prochaine.
Voilà.
À aujourd'hui, hein, rien ne l'indique. Alors moi, j'ai trouvé la solution, c'est que j'ai climatisé ma maison il y a 2 ans, une clim à l'étage, une clim au rez-de-chaussée. J'ai installé des panneaux solaires moi-même et comme ça, mes clims me refroidissent ma maison toute la journée pour 0 € de dépenser chez EDF. C'est une solution et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Flora. Elle a dit on est gouverné par des boomers. Alors déjà, on est gouverné par les personnes qu'on met au pouvoir, mais on est surtout gouverné par des incompétents. Et si aujourd'hui, il était plus facile d'installer des clims et des panneaux solaires dans les biens immobiliers, que ce soit les immeubles ou les maisons, notamment comme en Allemagne par exemple, pour mettre des panneaux solaires sur les balcons, ça dérange personne. En France, c'est quasi impossible. Mmh. Eh bien, on aurait beaucoup moins de problèmes et on serait certainement bien mieux chez soi.
Donc un peu, ce que vous dites, c'est faut desserrer le carcan, quoi, le carcan administratif et nous laisser un peu vivre si on veut installer des clims, des panneaux solaires, pouvoir le faire quand on veut, quoi, en fait, c'est ça, Thierry.
Exactement. De toute façon, dans le début de matinée, vous parliez des architectes de l'État, je ne sais plus comment ils s'appellent, les architectes. Des bâtiments de France. Mais ces gens-là, déjà, il faudrait commencer par les virer parce qu'ils servent à rien. Ils coûtent de l'argent pour rien. Et il faut savoir, c'est que si vous avez une maison dans un périmètre où il y a une église, un truc comme ça, vous pouvez pas mettre de panneaux solaires, vous pouvez même pas mettre de volets. C'est un truc de fou. Voilà. C'est tout simplement, on est géré par des incompétents qui n'ont pas de courage.
Après, la climatisation, ça reste un débat aussi, même si aujourd'hui tout le monde.
C'est un débat, la climatisation.
Ça n'est plus un débat.
Mais ça n'a jamais été. C'est exactement comme les taxes sur le. C'est évidemment qu'il faut climatiser, à commencer par les hôpitaux et les endroits où il y a des personnes vulnérables, les EHPAD, etc. C'est une évidence. Il faut aussi climatiser, je crois, les logements individuels, parce qu'on ne va pas tenir des étés entiers comme ça, surtout avec des publics fragiles. Et après, il faut s'attaquer au vrai problème qui est, chaque dixième de degré va changer notre expérience terrestre du tout au tout. Donc soit ça va être comme ça, mais ça c'est rien, ça va être 100 fois pire que ça, soit ça va devenir invivable. Donc on a le choix entre quelque chose de très difficile ou quelque chose d'invivable. Vous préférez quoi ? Pas compliqué.
Alors Thierry, on va en parler avec Patrick qui est avec nous justement, Patrick qui est à Marseille, vous voyez, du Var, on va être juste à côté dans le département voisin des Bouches-du-Rhône. Bonjour Patrick.
Allez, bonjour à tous.
Vous, ça commence à vous saouler un peu qu'on dise tout le temps il fait chaud?
Ben, moi je vais surprendre sûrement des personnes, mais moi je me régale en fait.
Pardon? Attendez, mettez-vous bien près du téléphone, parce que j'entends pas bien.
Oui, j'y suis.
D'accord.
C'est-à-dire que moi je me régale, contrairement à certaines personnes qui se plaignent. Pourtant je travaille à l'extérieur, je fais ce qu'il faut pour me rafraîchir. Comme je disais à votre collègue, dans 15 jours on parlera de la pluie, on va rallumer le chauffage, c'est l'été, faut profiter.
C'est un été sans pluie qui dure, avec des températures le soir, la nuit qui sont encore très hautes. C'est ça aussi qui fatigue les organismes. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de répit. Vous savez, il y a toujours une époque, surtout nous dans le sud, près de la mer, où quand on arrivait vers les soirées d'août, on se disait, tiens, les soirées commencent, c'est les soirées un peu fraîches. On avait un petit orage, il y avait un coup de mistral, vous voyez. Et puis ça nous rafraîchissait, quoi, Patrick. Là, on l'a même pas, quoi.
On est d'accord, mais moi, je parle pour mon cas personnel et mon entourage, on n'est pas perturbé. Mais pas du tout.
Il n'y a personne qui souffre autour de vous.
Franchement, non.
Là où Patrick a raison, c'est qu'il n'y a pas que des mauvais aspects à cette chaleur, à ce temps magnifique, à la mer, tous les enfants qui passent un été extraordinaire à se baigner, que sais-je. C'est vrai qu'on a tendance à voir que le côté négatif.
Allez-y, Patrick, non, je vous en prie.
C'est sûr, les côtés négatifs, c'est les pauvres personnes qui sont dans les hôpitaux, les personnes âgées. Bon, là, je suis d'accord avec vous. Mais là, je parle pour mon cas personnel, ma famille, mes proches, mes amis. Franchement, non. Je vois personne qui...
Et comment vous avez adapté votre logement, vous, Patrick ?
Il y a 3 ans, oui. Oui, tout à fait. Oui, j'ai investi. Il faut évoluer dans son temps. J'ai mis une clim.
Donc, ça veut dire qu'on est quand même, en installant une clim que vous n'aviez pas avant, ça veut quand même dire que les choses ont changé, Patrick. Parce que sinon, vous ne l'auriez pas fait.
J'aurais fait quand même pour le chauffage, en fait, pour avoir un chauffage électrique. Donc, du coup, j'ai fait une clim réversible.
Avec les enfants ou à la maison, ouais?
Là, je suis... Non, à 62 ans, les petits sont de leur côté.
Les petits sont grands, ils sont partis, ouais. D'accord. Donc, pas plus inquiet que ça aujourd'hui, Patrick, pour les jours à venir, quoi.
Sauf pour les personnes qui souffrent. Je suis bien d'accord, hein, pour être pas égoïste. Mais personnellement, franchement, non. Non.
Pas d'accord. Patrick, merci.
Désolé, hein,
Non, Patrick, je vous en prie. Dans tous les cas, que ce soit Thierry ou Patrick, ce que je remarque, c'est que les deux ont installé la climatisation. Donc, tu vois, ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, on a envie de pouvoir être confort chez soi, de s'adapter et d'avoir des logements dans lesquels on soit pas là à transpirer, tu vois, et revivre des, malheureusement, pour certains, des 30, 35, 35
degrés. Est-ce qu'on peut dire du bout des lèvres avec beaucoup de politesse et de respect que les médias en font un petit peu trop?
Peut-être. Merci à tous. On se retrouve demain pour de nouveaux 3 heures de direct. Joël Dagosséry, Didier Giraud, Antoine Diers, et vous serez avec nous au 32-16. Bonne journée. N'oubliez pas les podcasts.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.